Le récent mouvement social des agriculteurs a remis au centre des débats la question du revenu paysan en France et en Europe. Cette question, ça fait longtemps que certains se la posent et tentent d'y répondre. Des consommateurs qui préfèrent aux hypermarchés la fréquentation du marché, des AMAP. Dans l'Arrajois, il existe aussi deux initiatives originales, Alter Circuit, un réseau alternatif de distribution, et Epicoop, épicerie associative. C'était l'occasion pour nous de présenter à nouveau ces initiatives et de les faire dialoguer.
Bonjour, je suis Anne Lauten, présidente de l'Epicoop arrajoise. Et dans la structure que nous présenterons tout à l'heure, je participe principalement aux achats et un petit peu aussi à la tenue de la boutique dans la vente aux adhérents.
Bonjour, je suis Danielle Lefay, je fais partie d'Alter Circuit, une association de circuits courts qui est basée à Saint-Laurent-Blangy, et j'y suis en tant que membre actif. Comme on met en place un fonctionnement aussi démocratique, on a tous des rôles à équivalence pour faire fonctionner l'association.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces initiatives, comment ça fonctionne et aussi comment c'est né peut-être ? On commence par Daniel peut-être ?
Donc en fait, Alter Circuit est né il y a bientôt une vingtaine d'années. On était parti d'un groupe de réflexion sur la société. Notre idée étant de dire qu'est-ce qu'on peut prendre comme place active dans la société avec nos valeurs. Et à ce moment-là, ce qui nous préoccupait, c'était la force, la puissance des publicités, des moyens de consommation qui pesaient quand même déjà au niveau des consommateurs par rapport à des prix, puis à de la qualité, et qui pesaient énormément par rapport aux paysans. Parce que en fait, on avait bien compris le système, qui consistait à acheter le moins cher et à dévaloriser le travail des personnes qui étaient à la production et qui, après une marge importante, vendaient pas des prix corrects aux consommateurs. Donc, nous étions un tout petit groupe, hein, donc on ne pouvait pas lutter contre des industries de ce genre-là. Et donc, on s'est dit, on va faire un circuit court. Et on va être en direct avec des producteurs. Et à partir de là, on s'est dit aussi, tant qu'à faire, on a envie de faire un essai sur un fonctionnement plus démocratique que les associations avec un président, etc., tout bien structuré. Donc, on a réfléchi. En fait, on était fort aidé par un monsieur qui s'y connaît bien en démocratie, c'est Paul Masson. Donc, en fait, on a mis en place une structure qui fonctionne par petits groupes de réflexion sur une idée, par exemple le lien entre les producteurs-consommateurs, la fonction de la mise en place des commandes, la mise en place de la communication, etc. Donc il y avait 2-3 personnes dans une équipe, 2-3 personnes dans une autre, mais toutes les décisions et tous les thèmes de travail étaient décidés en assemblée générale. Avec, alors surtout j'oublie de dire, que c'est une association producteur-consommateur, c'est-à-dire qu'on fait des assemblées générales où sont présents les agriculteurs et les consommateurs. Et lors de ce fonctionnement, il y a un animateur ou une animatrice de la réunion qui, elle ou lui, fait le... propose le calendrier, le thème de la réunion, mais il n'y a pas de président. Voilà, donc l'animateur est en principe là pour 3 ans, ça tourne. Et alors bien sûr, il faut déclarer, on s'est arrangé pour ne pas... On a eu un peu de mal lors de la déclaration à la préfecture, parce qu'il voulait absolument savoir qui était le président, et nous on ne voulait pas dire. Donc on a dit animateur, finalement c'est passé. Donc notre fonctionnement consiste à faire que les producteurs livrent des paniers aux consommateurs. On fait les commandes au mois, mais on a plusieurs producteurs. Contrairement à une AMAP où on soutient un seul producteur, on a plusieurs producteurs. On sait qu'on ne peut pas les faire vivre parce qu'on n'est pas assez nombreux, on est une vintaine de consommateurs et on a 8 producteurs. Donc forcément, on ne peut pas faire vivre 8 producteurs. Donc ils ont, eux, la liberté, bien sûr, ils vendent au marché, enfin, ils font leur vente en dehors. Mais par contre, notre engagement, c'est de les soutenir justement dans leur démarche, dans les valeurs qu'ils défendent. Et on est fort associé à leurs problématiques quotidiennes et politiques et économiques.
Epicop, c'est quoi alors?
Alors Epicop, c'est une épicerie coopérative qui a un statut d'association. Donc elle est née au départ de l'initiative d'un couple d'Arrajois qui, à la suite du confinement, où ils avaient été notamment en direct avec des producteurs, quand on était confinés, des producteurs du marché d'Arras, se sont posé des questions et se sont dit qu'en étant en direct avec les producteurs, ils reprenaient la main sur leur alimentation. Donc on est un peu, je pense, dans la même genre de démarche qu'Alter Circuit. Donc ils ont voulu reprendre la main sur leur alimentation en créant cette association où des personnes, des adhérents, se mettent ensemble pour décider de ce qu'ils veulent acheter, à qui ils veulent l'acheter et le revendre ensuite à l'ensemble des adhérents. Alors, je me suis présentée tout à l'heure en disant que j'étais présidente parce que comme c'est une association, quand les statuts ont été déposés, il a fallu un président, une secrétaire et un trésorier ou une trésorière. Mais dans les statuts même de l'association, le président n'a pas un rôle déterminant. Ce n'est pas lui du tout qui décide. Il peut représenter comme moi, je suis là aujourd'hui, mais ça aurait très bien pu être un autre adhérent ou une autre adhérente qui aurait pu venir. Donc, nous travaillons avec un groupe de coordination, donc des personnes qui sont désignées en assemblée générale et qui postulent pour faire partie du groupe de coordination. C'est ce groupe de coordination qui prend les décisions finales s'il y a besoin. Et nous avons des groupes de travail. Donc, par exemple, il y a un groupe de travail, celui qui travaille le plus, c'est celui sur les achats, qui va décider sur les propositions des adhérents. Tiens, on a besoin, à partir de nos besoins, on a besoin de telle chose. Qui est-ce qui pourrait subvenir à ce besoin? Alors, quand on dit qui est-ce qui pourrait subvenir à ce besoin, on est dans les producteurs locaux, parce qu'on essaie d'avoir des produits les plus locaux possibles, ou en circuit court. En circuit court, c'est-à-dire avec le moins d'intermédiaires possible. Par exemple, en ce moment, nous vendons des avocats. Bon, il est évident que les avocats, ils sont pas produits dans le Pas-de-Calais. Par contre, on passe par Internet, une plateforme où on est en direct avec un producteur ou une productrice. D'ailleurs, ce sont souvent des productrices dans ce cas-là. Et c'est une productrice qui vient d'Espagne avec une démarche bio, avec une démarche, les avocats, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Par exemple, là, c'est du goutte-à-goutte pour essayer d'utiliser le moins d'eau possible. Donc dans les groupes de travail, le principal c'est le groupe achat, mais on peut avoir aussi un groupe communication. Dans notre local, on a un petit jardin, donc on a un groupe jardin qui travaille bien sûr principalement au printemps et en été, etc. Le fonctionnement de notre épicerie, donc nous avons un local. Dans ce local, nous avons des horaires d'ouverture, alors qui ont un temps été tenus par un salarié. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à dégager suffisamment de bénéfices pour continuer à payer ce salarié. Donc le salarié a en fait été payé grâce à une aide de la région, mais qui est une aide pour démarrer. Donc là, on n'a pas pu perdurer. Ce sont donc les adhérents et les adhérentes qui, à tour de rôle, tiennent les permanences. Donc on est ouvert mardi, jeudi, vendredi et mercredi après-midi, plus le mercredi matin et le samedi matin. Les adhérents viennent pour acheter les produits qui sont regroupés et nous recevons donc dans nos locaux, nous avons nos producteurs qui viennent nous livrer. Ou alors, nous venons chercher nous-mêmes, par exemple, sur le marché d'Arras. Nous avons des producteurs du marché d'Arras, donc le mercredi matin ou le samedi matin, on vient y chercher nos productions. On en a aussi d'autres qui ne sont, par exemple, nous avons un producteur bio qui est à Mercatel. Donc là, c'est nous-mêmes qui nous rendons sur Mercatel. Pareil, des adhérents qui se rendent sur Mercatel pour venir chercher les produits. Nous avons un autre producteur pour les œufs qui est sur Hermaville. Là, c'est pareil, lui-même ne fait pas de livraison. Donc, nous venons des adhérents vont chercher les produits sur Armaville. On travaille aussi parce que on est aussi dans notre démarche de consommateur, on essaie d'avoir des produits bio, non seulement en locaux, mais des produits bio. Et pour tout ce qui est, on va dire, épicerie sèche, on s'adresse à un intermédiaire qui est un grossiste bio de la région lilloise et qui lui-même, dans sa démarche, essaie d'avoir des produits les plus locaux possibles.
Combien y a-t-il d'adhérents à Epicop actuellement ?
Alors actuellement, on a recommencé, on a une adhésion du 1er janvier au 31 décembre, donc on a recommencé notre campagne d'adhésion et nous sommes actuellement à 39 adhérents. Alors l'année dernière, on était monté à une centaine d'adhérents, mais en sachant que au fil de l'année, on s'aperçoit qu'il y en a qui consomment régulièrement et qui participent régulièrement. Et puis, il y a des personnes que l'on va voir de moins en moins. Donc là, les 39 adhérents, ce qui pour nous est appréciable, c'est qu'on se rend compte sur ce début d'année que ce sont des adhérents qui sont impliqués. Alors impliqués d'une part parce qu'ils vont en partie participer, tenir les permanences, faire des actions de communication. On a aussi commencé à lancer quelques ateliers. Donc, par exemple, au mois de février, on a fait un atelier sur de partage de recettes et où nous avions invité une diététicienne qui nous a donné ses conseils. Et ces adhérents, ces 39 adhérents, consomment aussi régulièrement. Ce qui est important pour nous parce qu'on a besoin de couvrir nos frais, c'est-à-dire principalement le local, le loyer du local et puis les charges afférentes
qui sont assez
à ce local,
sûrement,
qui sont relativement importantes.
Alors, ces dernières semaines en France, la question agricole est revenue au centre des débats avec ce mouvement important lancé par des agriculteurs, avec quand même cette question au centre, celle du revenu des paysans, des producteurs, des agriculteurs. En quoi est-ce que vos initiatives sont d'une certaine manière une réponse ? Même si on l'a compris, c'est une petite réponse à l'échelle de quelques dizaines de personnes. Mais en quoi c'est une réponse à cette problématique du revenu des paysans ? Daniel ?
Nous, en fait, on ne se place pas vraiment sous le... Bien sûr, on est des consommateurs en tant que... Les adhérents consommateurs forcément consomment. Mais on se met quand même toujours dans l'optique du producteur. C'est-à-dire qu'on mange local et de saison. On ne demande pas des choses qu'ils ne produisent pas. Et lorsque on achète quelque chose, c'est eux qui fixent le prix et on paye ce qu'ils nous fournissent directement à leur... ce qu'on paye au mois leur revient directement.
Il n'y a pas de négociation, pas de discussion.
Non, pas de discussion. Bon, ils sont corrects. Hein. Mais voilà, si on prend un panier à 8 euros pour deux personnes, c'est 8 euros et dedans, ils mettent ce qu'ils veulent. Ensuite, s'ils ont des produits en plus, ils peuvent les mettre au kilo en plus, mais là, on fait la commande au mois. En fait, comme on fait des commandes au mois, ben on est d'accord tous, quoi, puisque on sait ce qu'on a commandé, à part ce qu'il y a dans le panier, parce que là, c'est eux qui gèrent. Donc, en fait, on répond à leurs demandes et il n'y a pas d'intermédiaire du tout. Donc, on s'arrange après par rapport à la cotisation annuelle et il y a un minimum de pourcentage par rapport à leur chiffre d'affaires, plus, et ensuite on fait des petites actions. Parce que malgré tout, sur l'année, alors qu'on a un loyer très très faible, puisqu'on utilise un local que 3-4 heures par semaine seulement, mine de rien, on a quand même au moins 700 ou 800 euros de frais. Parce qu'il faut payer l'assurance, la poste, le système informatique, etc.
Des frais bancaires peut-être aussi.
Oui, les frais bancaires. Tout ça fait à peu près... Donc il faut qu'on arrive à subvenir à ce besoin. Mais on ne lèse pas du tout les producteurs. C'est à nous de nous organiser. Tout est clair. Enfin, les comptes sont faits correctement. Alors, par rapport aux revenus des paysans, donc, nous, on joue la carte du soutien aux paysans et on consomme local et de proximité. On est passionné aussi par leur façon de travailler parce qu'ils ont des... pratiquement tous nos producteurs sont bio. Et on participe à des journées, des portes ouvertes, visite à la ferme. Et on sait que leur travail est très, très fatigant, ça mange énormément d'heures. Mais en général, ils sont passionnés et voilà, et ça nous fait plaisir de les soutenir. Ils créent une dynamique par rapport à la nature, quoi. C'est respect de la biodiversité, etc. Et par rapport aux livraisons, on a fait notre... En fait, nous, on livre le jeudi parce que le jeudi matin, il y a un marché pas loin. Donc, en passant, ils déposent les affaires. Enfin, en fait, on a calculé tous les circuits. C'est eux qui nous livrent, mais tout est calculé pour qu'il y ait le moins de déplacements possible.
Pour les pick-up, comment ça marche la discussion, là, peut-être la négociation avec les producteurs ?
Alors, avec les producteurs, il n'y a pas de négociation, en fait, parce que nous aussi, nous acceptons... Alors, pour la partie où nous sommes en direct avec le producteur, c'est le producteur qui fixe le prix auquel on achète.
Pas de discussion, pas de... Négociation, pas ah non. Plus on achète, plus on tire les prix, non ?
Non, alors déjà, nous sommes une petite structure et puis non, on ne sait pas du tout dans notre état d'esprit. Hein. Donc, c'est le prix que le producteur décide. Et puis nous, après, on applique une marge pour essayer, on va dire... Alors, quand je dis d'être rentable, ce n'est pas du tout de dégager un bénéfice, mais de réussir effectivement à payer les différents frais, le loyer, les assurances, les frais bancaires. On a un site parce que... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les adhérents peuvent commander sur le site un panier qu'ils viennent ensuite chercher au moment qui leur convient dans notre épicerie. Donc bien sûr, il y a des frais d'hébergement de ce site. On a, pour assurer la vente, on a un logiciel qui est un logiciel où on paye aussi, que l'on paye aussi pour pouvoir l'utiliser. Mais non, nous ne décidons pas du tout du prix que nous payons au producteur et nous ne le négocions pas. C'est lui qui choisit le prix auquel il nous vend. Et évidemment, dans notre état d'esprit, j'ai dit qu'on cherchait à répondre à nos besoins, mais en respectant, bien sûr, les producteurs. C'est extrêmement important. Et nous sommes, nous aussi, conscients de la difficulté de leur travail. Il y a d'ailleurs un producteur avec lequel nous travaillons sur Mercatel, en bio, où deux de nos adhérents sont partis faire un petit reportage photo. Alors, il nous livre notamment des oignons et il y a une photo dans notre épicope où on voit comment ils font pour désherber. Hein. C'est pas du glyphosate, il est allongé sur une sorte de nacelle qui lui permet d'être au-dessus de la terre sans la toucher et c'est fait à la main.
Quel intérêt vos adhérents trouvent dans ces initiatives ? Parce que bon, il y a quand même un engagement, il y a du temps passé, on l'entend. Hein, vos adhérents passent du temps à organiser cette distribution alternative. Comment vous voyez les choses, vous, Daniel, peut-être ?
Mais c'est que du bonheur. On a l'impression d'être acteur de quelque chose qui... Enfin, d'initiatives qui sont... positive. Et puis en plus, ça permet le partage, ça permet la connaissance, ça permet de se sentir utile. Et c'est extraordinaire.
Et financièrement, alors c'est intéressant ou...
Ah mais oui, parce que en fait, des fois, on entend dire que le... Alors, par rapport à ça, au prix, j'ai beaucoup de choses à dire. Disons que déjà, si on achète des produits bio de bonne qualité, pratiquement on gaspille rien. C'est-à-dire, vous prenez une carotte, vous la lavez, vous n'avez pas besoin de l'éplucher, vous récupérez les feuilles s'il y en a, vous faites une soupe. En fait, quand on achète un produit bio, on pratiquement mange tout. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Puis, lorsque je regarde la livraison des producteurs en direct, les prix sont bien moins chers, même que quelquefois, les prix des supermarchés, je n'en parle même pas, mais même sur le marché d'autres... Bon, je sais aussi qu'il y a sur le marché, des fois, il y a des personnes qui vendent des produits, on ne sait pas d'où ils viennent, à des prix que je ne comprends pas. Mais si on parle... Moi, je pense que le prix est très correct par rapport aux consommateurs. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au prix de ce qui est agriculture bio, je trouve injuste quand on dit que les produits bio sont chers. Parce que lorsqu'il y a un produit conventionnel, qui pollue l'eau, qui pollue l'air, qui rend malade les gens, tout ça s'appelle des externalités négatives, qui détruit la biodiversité. Toutes ces externalités négatives, elles sont après supportées par la société, puisqu'il faut soigner les gens, dépolluer l'eau, dépolluer l'air, etc. Or, lorsque les agriculteurs travaillent proprement en bio, il n'y a pas toutes ces externalités négatives, mais au contraire, il y a des externalités positives, puisqu'ils permettent la vie, la terre est vivante, les insectes aussi, enfin voilà. Donc, quand on achète un produit bio, en fait, on a entre les mains le produit plus toute l'externalité positive ou négative.
Anne, sur l'intérêt pour les adhérents d'Epicop.
Alors, l'intérêt pour les adhérents de l'Epicop, il y en a plusieurs. Il peut dépendre aussi des personnes. L'autre jour, il y avait des adhérents qui discutaient. Il y en avait une qui disait « Ah ben moi, ce que j'aime bien quand je viens à l'Epicop, c'est que j'ai pas à faire face à trop de choix. » Sachant que, alors comme nous ne faisons pas que des produits directement aux producteurs, on a aussi de l'épicerie, on a des produits d'entretien, alors qui évidemment, là c'est pareil, sont des produits d'entretien naturel, mais voyez-moi par exemple, aujourd'hui, je pense que j'achète à peu près 80% de ce que je consomme à l'Epicop. Et le reste étant peut-être à 18% sur le marché et puis un tout petit peu, 2% restant parfois dans un supermarché. Donc ça, c'est ce qu'elle remarquait. Il y a le fait que, comme on disait, on reprend la main, donc on agit, on est vraiment consommateur. Donc on sait ce qu'on consomme, on a choisi, on participe à un système beaucoup plus vertueux. On sait bien qu'en matière d'écologie, on ne cesse de le répéter, on va droit dans le mur. Alors, ce n'est qu'une petite chose que l'on peut faire, mais au moins sur cette partie-là, on apporte notre contribution à ce que le monde fonctionne peut-être un petit peu mieux. Financièrement, on est sur des produits, puisque... nous participons nous-mêmes, qui reste quand même, quand on regarde un petit peu autour de nous, qui reste globalement un peu moins cher. Donc on ne perd pas d'argent en venant acheter à l'Epicop, au contraire, on va en gagner un petit peu. Et puis il y a aussi tout l'aspect convivialité. Moi, j'ai rencontré des amis à l'Epicop, je me suis fait des amis à l'Epicop, des amis avec qui je partage des valeurs, avec qui nous faisons des choses dans l'Epicop et nous allons même faire des choses à l'extérieur, avec qui nous découvrons autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour une petite anecdote, au mois d'août, l'Epicop était fermé, je me suis retrouvée à aller un peu plus souvent au supermarché et c'était... Je me dis, mais parce que, bon, vous avez bien compris que l'Epicop, chaque année, on se dit, est-ce qu'elle va réussir à survivre ? Et là, je me disais, mais... Si j'ai plus l'Epicop, il va falloir que je recommence à consommer comme ça. Ça me semble. Ça m'aurait semblé extrêmement difficile.
Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. Peu m'importe la somme puisque j'achète.
Vos initiatives, on l'a compris, concernent quand même un petit nombre de personnes. On parle de 20 personnes à Alter Circuit. Je ne sais pas si...
En tant que consommateur, hein, plus les producteurs. Mmh. Donc ça fait 28 personnes. Oui.
Et je ne sais pas si ça peut accueillir
oui.
des dizaines de consommateurs. Bon, peut-être, hein, si c'est encore ouvert. Epicop, on parle de 40 personnes. Est-ce que ce système-là... C'est viable à plus grande échelle? Est-ce que ça peut être généralisé? Et comment vous répondez aux gens aussi qui vous disent on n'a pas le temps de s'impliquer, voilà, le supermarché c'est pas forcément notre premier choix, mais on n'a pas le choix parce que on ça va plus vite.
Alors moi je l'ai entendu, hein, parce que bien sûr on est allé voir nos voisins, on est allé voir, voilà, on essaie, on a une idée qu'on trouve formidable, on a envie de la partager. C'est vrai que ce n'est pas facile à répondre, parce que quand on me dit on n'a pas le temps, mais enfin moi je vais répondre que c'est une question de valeur. Le temps, on le trouve pour ce qu'on souhaite et pour les valeurs que l'on veut défendre. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Nous, quand les gens passent, puisque c'est un local ouvert, donc les gens passent, on leur présente et on a quand même l'impression que si les gens, ils sont contents de trouver des bons produits qui coûtent moins cher, faire l'effort de prendre du temps pour que ça fonctionne, Là, c'est quand même plus difficile. Donc ça, mes propos vont sembler un peu pessimistes, mais malheureusement, ils sont le reflet de ce que l'on voit et des réflexions que l'on entend.
Daniel ?
Ben oui, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps ? Si c'est pour qu'il faut aller dans un supermarché, bon, d'après, bien sûr, maintenant, il y a des caisses rapides, mais enfin, il faut attendre à la caisse. Il faut circuler dans le magasin pour trouver le produit, mais finalement, on se laisse tenter par d'autres choses. Au final, est-ce qu'on a bien acheté ce qu'on voulait ? Est-ce qu'on a trouvé ce qu'on voulait ? Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là ? Donc, il y a l'utilisation de nos achats. Est-ce que ça correspond ? Donc, c'est une question de liberté, finalement. Parce que si on se laisse tenter par des choses dont on n'a pas besoin, ce n'est pas vraiment une solution. Et ensuite, lorsque on doit revenir à la maison et puis qu'on voilà, on décharge, on doit faire un tas de, enfin, on jette les plastiques, on fait, enfin, il y a tout est lié. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps ? Si on va justement à l'association ou à l'épicop, on rencontre des gens plutôt que de passer le temps à courir dans les rayons. Ben, on rencontre des gens, on parle. On se réapproprie, en fait, notre humanité. Moi, je trouve que aller dans un supermarché derrière un chariot et puis être envahi par des choses qui ne nous correspondent peut-être pas, ce n'est pas réconfortant. Alors que si on va à la rencontre des gens et on comprend ce qu'on fait, ça a du sens, on se sent nourri, en fait, même humainement. Et donc ça vaut tout ce qu'on a de bien. Et puis par rapport, comme on me demande de dire si qu'est-ce que pourrait faire, enfin on pourrait pas agrandir au maximum peut-être notre association, mais il est possible d'essaimer, c'est-à-dire que nous on est sur Saint-Laurent, mais il peut y avoir notre groupe qui fonctionne d'une même façon au nord d'Arras, au sud, etc. Quoi. On peut en faire un peu partout de ces petites associations. L'important, c'est que les gens s'y retrouvent et partagent des valeurs communes.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur se réapproprier son humanité. Ça rejoint dans ce que je parlais de la convivialité. Ça me rappelle une parole d'une adhérente qui, à un moment où, comme dans toute association, il y a des moments où ça fonctionne un peu moins bien et où on a eu un petit peu peur, et qui disait « Mais moi, quand je viens à l'épicop, non seulement j'achète, mais je discute avec les gens qui partagent effectivement les mêmes valeurs. » Et elle dit « Parfois, c'est tout aussi bien que d'avoir fait une séance avec un psychologue.
» Je reviens au mouvement social des agriculteurs en ce moment. Est-ce que vous, les agriculteurs avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'ils étaient dans ces mouvements ? Comment ils voient un petit peu et comment vous aussi, vous voyez ce mouvement ?
Eh bien, par exemple, dimanche dernier, j'étais dans une ferme à Campignol-les-Grandes, d'une ferme qui est gérée par trois frères et sœurs. Et eux, ils ont fait le salon de l'agriculture dans leur ferme. C'est-à-dire, on a regardé comment ils travaillaient, comment ils s'organisaient. Et ça, c'était des informations très intéressantes. Et donc, il y a, de toute façon, dans ce mouvement d'agriculteurs, il y a bien sûr plusieurs tendances. Nous, on soutient la Confédération paysanne, qui a un regard beaucoup plus respectueux de la nature, qui travaille avec des valeurs en rapport avec la terre, et qui ne, bien sûr, ils ont besoin de vivre, ils travaillent énormément. Dans ce mouvement, eux, ce qu'ils défendaient, c'était surtout le niveau des salaires, hein, parce que c'était pas du tout qu'on permette d'enlever des haies, etc. C'est tout à fait contraire à leur façon de voir les choses, puisque justement, eux, ils sont pour mettre des haies. Mais, comme je disais, en fait, c'est un peu un lien avec tout à l'heure les histoires d'externalité, ils voudraient que soit reconnu leur travail de respect de la nature et de la biodiversité et du temps qu'ils passent, comme tu disais, à désherber à la main. C'est quelque chose, même s'ils ont des plateformes qui avancent, il faut le faire. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que ce que je trouve de très intéressant, d'abord, ils défendent leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dirigés par des experts qui vont leur dire « ce jour-là, comme il a plu, vous devez mettre tel produit dans la terre, vous allez vendre parce que tel marché c'est ceci ou cela ». Eux, ils gèrent d'une façon très intelligente les productions, en alternant, en faisant des associations et bon, toutes les méthodes qui se développent de plus en plus et qui sont reconnues comme valables et productrices. Parce que ce qui est quand même curieux, c'est quand l'agriculture conventionnelle dit « Oh, mais on ne peut pas se passer de pesticides. Et pourquoi les bio peuvent s'en passer ?» Il y a quand même un problème là. C'est pour dire qu'il y a des manifestants dans le monde agricole, mais ils n'ont pas du tout tous les mêmes idées.
Anne ?
Alors, ben, oui, effectivement, dans le monde agricole, on voit bien qu'il y a de grandes différences dans les idées qui sont défendues. Ben, nous, à l'EPICOP, on va être évidemment plutôt... on est du côté de modèles comme la Confédération paysanne et on est aussi beaucoup pour le bio. Et on est très affolés et très inquiets de la politique qui est pratiquée depuis des années et qui semble continuer à se pratiquer du côté du gouvernement ou de l'Europe, où en fait on voit qu'on est, on favorise ce qu'on appelle l'agro-industrie. Et donc on favorise le revenu de quelques agriculteurs qui vont très bien gagner leur vie, mais l'ensemble des autres agriculteurs, effectivement, ne gagnent pas correctement leur vie avec des conditions de travail extrêmement difficile. Alors quand on parle des prix et puis qu'on nous dit mais oui mais augmenter les prix c'est difficile, ben non, moi ça ne me semble pas si difficile que ça. Ce qu'on oublie de dire c'est qu'en face effectivement il y a des gens qui ont des salaires qui ne sont pas suffisants, mais c'est peut-être pas baisser les prix qu'il faut, c'est augmenter les salaires pour que les personnes puissent acheter des choses à leur juste prix. Et un juste prix qui permet aux producteurs de vivre correctement.
Daniel ?
Oui, en fait, par rapport à ça, je voudrais rajouter qu'il y a un système, ce qu'on appelle la PAC. Alors la PAC, c'est une réflexion au niveau de l'Europe qui veut que les prix soient les moins élevés possibles en relation avec les salaires. C'est-à-dire, si on maintient les prix les plus bas possibles, on pourrait maintenir les salaires les plus bas possibles pour que les gens arrivent à consommer. Sauf que c'est tourné en rond et ce sont des mauvais choix. Alors ensuite, les producteurs disent, oui, mais on est obligé de s'aligner aux cours mondiaux. Mais non, ce n'est pas non plus une solution, parce que quand on voit à l'heure actuelle les producteurs de différents pays qui sont en train de se soulever, ça veut bien dire que même si on réfléchit sur le plan mondial, les solutions ne sont pas du tout d'à propos, quoi. Il y a cette agriculture qui se veut mondiale, mais qui en réalité, elle pousse sur un territoire donné. Et si ce territoire donné n'arrive même pas à nourrir la population qui est autour, ça ne va pas, cette histoire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Voilà. Une réflexion qui est en train de se faire au niveau de du PAT.
On en parlait justement, c'est un peu ma dernière question. Hein, on a parlé de la PAC, politique agricole commune au niveau européen. Au niveau local, hein, à Rajoie, il y a un autre plan, le PAT, plan alimentaire territorial. Est-ce que les choses bougent ? Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que vous êtes associé aux discussions ? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent ? Comment vous voyez les choses au niveau local ? Anne ?
Alors nous, on a été associés au PAT dès la première réunion où nous avons été invités. Alors après, le problème, c'est que ces réunions ont souvent lieu à des moments où les adhérents qui travaillent ne peuvent pas venir. Et je dois avouer que là, on ne sait pas trop où cela en est exactement.
Daniel ?
Alors moi, j'y ai participé. Ce qui me frappe, c'est qu'on a eu des informations sur... Enfin, on a fait... Il y a eu des... Il y a une un bureau d'expertise qui a sorti des documents pour faire un état des lieux. Et par exemple, ce qui est surprenant, c'est que sur la CUA, nous avons 17%, il me semble bien, 17% de l'agriculture locale qui nourrit la population de la CUA. Imaginez. Donc, ça veut dire qu'on doit importer dans la CUA l'agriculture, enfin des produits qui viennent d'ailleurs. Et il y a sur ce territoire énormément d'entreprises de transformation, et puis il y a aussi bien sûr des terrains agricoles qui produisent une agriculture intensive. Donc il y a tout un remaniement à faire au niveau de la réflexion, même dans la tête des gens, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont... Parce qu'on a travaillé par groupe, sur des thèmes, etc., ça a été repris. Et maintenant, il doit y avoir un lancement de propositions. Alors, ce qui est revenu souvent, c'est de pouvoir dire qu'au moins dans les écoles, la loi Egalim demande à ce qu'il y ait au moins 20% de l'alimentation bio locale dans les établissements scolaires, ce qui est loin d'être le cas. On pourrait, au niveau de la CUA déjà, se mettre en marche pour que cette loi soit appliquée correctement. Je ne sais pas si ça va avancer, cette histoire, parce que on sent bien qu'il y a une forte opposition, une résistance de certains agriculteurs, pour ne pas nommer qui font partie de la FNSEA. La FNSEA étant bien implantée sur le secteur, moi je ne sais pas. Alors quand on peut parler avec certains, ils disent « Oui, mais nous on sait faire, vous nous laissez faire, nous on connaît ». Alors que nous sommes aussi des consommateurs et on a envie de pouvoir dire ce qu'on a envie de manger, quoi. C'est pas à eux de décider ce qu'ils vont nous donner, en sachant qu'ils mettent énormément de produits qui ne sont pas bons. Quand on voit par exemple les tableaux de l'air, la qualité de l'air, on est rarement à très bon, hein. On est souvent médiocre ou pire. Donc il y a bien dans la pollution atmosphérique des produits qui reviennent malgré tout, il me semble, de l'agriculture.
Bah oui, je pense, et ça demanderait une volonté politique que je ne suis pas sûre que nous ayons. Au contraire, on a même l'impression parfois qu'il y a des régressions. Dire, dans le bio, ça devient de plus en plus difficile. Il y a une semaine, nous avons reçu un mail d'un producteur bio de la région qui est à la fois éleveur et qui a aussi... des céréales, des farines, et qui s'apprête à arrêter une partie de son activité. Et il n'est sans doute pas le seul. Nous avons une adhérente qui travaille dans l'association au bio en Hauts-de-France qui nous dit combien en ce moment c'est difficile pour les agriculteurs bio. Avec en plus une image qui semble dégradée auprès du public. Moi, j'ai vu disparaître du supermarché à côté de chez moi, ces deux dernières années, les fruits et légumes bio. Il y avait un grand rayon de fruits et légumes bio, il a disparu. Sur le marché d'Arras, nous avons deux producteurs que nous connaissons qui avaient une grande affiche bio pour présenter leurs produits, qui ont enlevé cette affiche parce que les gens n'achètent plus bio avec une mauvaise image du bio. Trop cher, finalement pas si intéressant que ça. Et on a fait un petit travail à l'EPICOP, par exemple, sur les labels. Et on s'est aperçu, par exemple, qu'il y a un label qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale, donc qui n'est pas du tout un label pour les produits bio. Donc qui donne l'impression qu'on achète des produits super, haute valeur environnementale. Et en fait, quand on creuse derrière le label, ben non, pas du tout. Parce que ce label, il garantit que certains produits ne sont pas utilisés ou en petite quantité, mais d'autres peuvent l'être.
Ou bien s'il y a un mur avec un lézard, c'est considéré comme haute valeur environnementale, par exemple. Enfin, c'est pour brouiller le message. En fait, ces gros industriels, enfin, cette grosse machine agroéconomique, on dirait qu'elle a peur des petits producteurs qui travaillent correctement. C'est très, très incroyable.
Bah, je ne sais pas si elle en a peur, mais en tout cas, elle, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est faire du profit, faire de l'argent sans s'inquiéter de l'avenir et mettre tous les moyens possibles à ce service-là. Donc, on voit bien qu'il y a du lobbying qui doit fonctionner parce que quand ces labels fonctionnent et qu'ils sont autorisés, c'est que derrière, il y a des gens qui ont intérêt à ça.
Je reviens au PAT. Vous avez parlé de mettre plus de produits locaux ou bio dans les cantines. Quels sont les autres leviers? Quelles sont les autres actions possibles, à votre avis aussi? Peut-être justement qu'il y ait des lieux où les distributions alternatives soient possibles ou d'autres idées?
Moi, je pense qu'il y a, en ce moment, on parle beaucoup de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'on permettrait à des personnes qui ont moins de moyens de pouvoir acheter des produits locaux, bio peut-être, ça serait bien aussi, pour qu'ils puissent manger correctement. Parce qu'on sait bien que l'alimentation a un impact énorme sur la santé. Or, les Hauts-de-France sont, dans les différentes présentations, on a vu que les Hauts-de-France étaient une région où la santé était très dégradée à cause de l'alimentation. Donc voilà, si la CUA, elle réfléchit à cette solution... Par rapport aux citoyens en général, c'est une bonne voie de réflexion. Et puis, bien sûr, par rapport aux établissements scolaires, etc., c'est possible aussi. Il y a des possibilités. Hein. Et en même temps, permettre aux agriculteurs de s'installer pour qu'il n'y ait pas cette pression de plus en plus importante des gros agriculteurs qui veulent encore plus de terres et au détriment de ceux qui en auraient besoin de moins. Parce que, en fait, avec 4-5 hectares de maraîchage, on peut déjà nourrir énormément de gens.
Pour en revenir à la restauration scolaire, j'ai vu des initiatives qui ont lieu en France où il y a des cantines 100% bio. Et alors, non seulement ça ne leur coûte pas plus cher, mais elles font même des économies. Pour revenir à ce que disait Daniel, dans du bio, comme on peut tout utiliser, on ne jette pas les produits. Et par exemple, pour le lendemain, on va faire une soupe en entrée.
Pas de gaspillage.
Pas de gaspillage. Mais là aussi, ça demande une véritable volonté politique.
Et puis, c'est en même temps développer l'intelligence des personnes qui tourne autour de ce travail-là, de bien nourrir les gens. Parce que si on laisse faire, on dirait qu'il y a des algorithmes qui vont dire voilà, tel jour de pluie, il faut mettre tel produit, on envoie ces informations au tracteur qui va aller dans le champ et qui va dire... parce que maintenant, les tracteurs, ils peuvent fonctionner tout seuls. Hein, donc, vous imaginez tous les investissements qu'on pousse, qui sont mis entre les mains de certains agriculteurs pour soi-disant leur permettre de mieux travailler, c'est-à-dire tout est conditionné, il y a des relations avec l'espace pour
les satellites
pour déterminer la taille du champ, pour etc. Alors bon, ça paraît, ce sont presque des jeux vidéo, hein, en fait, tout ça. Sauf qu'il faut acheter les tracteurs, qui coûtent très cher. Alors, le Crédit Agricole est là pour les aider, etc. C'est comme pour construire des bassines. Les finances, elles arrivent toujours. Sauf que l'agriculteur qui doit mettre en place ce système, il est pris à la gorge. Donc, ensuite, c'est tout un système économique qui dépasse largement le but des agriculteurs de nourrir les gens sans abîmer la terre.
Et du point de vue humain, ça dépossède l'agriculteur de ses connaissances. Et ça aussi, je trouve que c'est très grave. Et dans l'agriculture bio, on travaille aussi beaucoup. Mais j'avais déjà assisté à des assises du lait bio où j'avais été frappée en rencontrant un éleveur qui disait qu'à partir du moment où il était passé en bio, il avait repris aussi la main sur ce qu'il vivait et qu'il vivait mieux.
Bien sûr.
Et juste après, je jette. Je consomme et juste après, je jette. Peu m'importe la somme puisque j'achète. Je consomme et juste après, je jette. Kleenex, Alfa Romeo, Arc sous le chat. McDo, Durex, Microsoft et mon ex, Kodak, Hollywood, Esprit, Cora. BNPT, F1, OCB, Formule 1, RATP ou Michelin. Et bien l'autre encore, Énergie, Kia, Ribonite, Coca-Cola, Renault, au Pizza, OL, Ola, Vichy, Célestin. Je consomme et juste après je jette. 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 BNPT, F1, OCB, Formule 1, RATP ou Michelin. Et bien d'autres encore, Énergie, Kia, Ribon.